Danmag. T comme Titan, Dan comme Daniel, le magazine de Titan et Daniel. Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé
Dominique
au micro et de l'ami fidèle
Laurent
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent.
Raph Péo, pour vous présenter à ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, on peut dire, vous aurez l'occasion de vous en expliquer, qu'avec vous, on a un peu de mal à vous ranger dans un tiroir avec une étiquette. Vous êtes tout à la fois artiste peintre, performeur, dessinateur, plasticien, graphiste, décorateur, animateur, éducateur, organisateur de festivals, une sorte d'explorateur qui multiplie les modes d'expression, invente de nouvelles formes de rencontres, bref, vous donnez l'impression de ne pas tenir en place. Vous commencez en réalisant des fresques, notamment celle du théâtre Jean Villard en 1994. Vous travaillez en tant qu'animateur pour le musée, le théâtre, le service culturel de Bourgoin-Jallieu. Vous êtes même projectionniste. En 2001, vous fondez une association SMICAR pour vulgariser les arts plastiques. En 2007, vous intervenez dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, dans un établissement pénitentiaire spécialisé. Vous avez travaillé avec des handicapés, vous êtes intervenu dans des écoles. Vous aimez les musiques actuelles que vous voulez faire découvrir dans notre région. En 2012, vous mettez en place l'Artelier, une école d'art. Et enfin, l'an dernier, vous organisez pour la première fois un festival de l'étrange que vous appelez Carnival et dont vous êtes en train de peaufiner la deuxième édition. Bonjour, Raph Péo.
Bonjour.
Alors, pour qu'on vous connaisse un peu mieux, est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'artiste Raph Péo? Comment vous situez-vous personnellement au milieu de toutes ces activités?
Je me situe par les choses que j'aime, simplement. Je papillonne un peu. Des fois, on m'en fait le reproche de ne pas avoir une production vraiment homogène. Et ça, je l'accorde fort aisément. En fait, je m'amuse à travers tous les médias qui peuvent s'offrir à moi et les projets.
Alors ce choix justement d'aller dans des directions assez diverses, est-ce que vous l'avez fait tout de suite ou est-ce que ça vous est venu progressivement au fur et à mesure que vous découvriez de nouveaux univers?
C'est pas vraiment un choix, c'est plus des envies à un moment, des collaborations, des idées. Voilà, avec tel ami, on pourrait faire telle chose. C'est souvent plutôt des histoires de copinage, d'amitié, d'envie. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expression artistique? Que faites-vous en tant que peintre?
Longtemps, j'ai surtout fait de la peinture abstraite au niveau de mes expositions. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai fait en termes d'illustration. Là, le moment où on réalisait les programmes pour les abattoirs, on faisait beaucoup de choses d'illustration. Là, je vois encore chez vous une affiche de l'émigrant, par exemple. Donc, selon les projets, on partait sur des choses plus ou moins figuratives, plus ou moins humoristiques, caricaturales. Et c'est vrai que là-dedans, moi, j'ai pas vraiment de style. C'est plutôt emprunté, j'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Quand je fais de l'humoristique, forcément je pense à des gens comme Gottlieb, quand je pars plutôt dans l'esthétique futuriste, je pense à Giger, je pense à des films comme Matrix, mes productions sont plutôt empruntées, quoi, voilà. C'est aussi le fait de pas être spécialisé où finalement... Je papillonne, voilà, et je vole beaucoup aux autres.
Vous avez commencé par réaliser des fresques, c'était important?
C'était génial surtout, hein. La première fresque, j'avais 19 ans, sur une façade de théâtre, on m'a fait cette confiance-là, alors que j'étais vraiment tout jeune sorti de l'œuf, voire pas encore sorti de l'œuf, et puis pour moi, ça m'a définitivement ancré dans ce que je voulais vraiment faire. Ça m'a un peu gonflé l'ego dans le fait d'y croire vraiment, d'avoir une telle façade à 19 ans, 100 mètres carrés, sur la façade d'un théâtre à Bourgoin, sa ville natale. Pour moi, puis en plus, sans avoir de contraintes sur le sujet, à l'époque, c'est un truc, quand j'y repense maintenant, c'était incroyable, hein, la liberté que m'a offert la municipalité à l'époque, sûrement parce que j'étais recommandé par simplement Claude Duport, mon ancien prof, qui m'a arrondi les angles sur ce sujet-là. Mais j'ai eu une chance où maintenant, ça me fait même un peu... un peu râlé de pas d'avoir eu ça trop jeune. J'aimerais avoir cette façade-là maintenant à réaliser. Mais le mural, c'est vraiment un média qui m'amuse beaucoup, qui fonctionne beaucoup. Enfin, on parlera après de mon aspect pédagogue, entre guillemets. Mais c'est le mural, tout de suite, on crée, on fait du trompe-l'œil, on change les perspectives, on modifie des espaces urbains. Donc il y a vraiment quelque chose dans le côté monumental des œuvres où on oblige le public à rentrer dans la peinture. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce format-là, quoi.
Et vous êtes seul quand vous réalisez ce type de création ?
Non, la plupart du temps, surtout ce qu'on a fait avec Smicar, ça s'est créé avec des amis, notamment Jean-Olivier Barrez, avec qui on avait été élèves ensemble au lycée de la Tour du Pin. Après, il y a eu Marc Moulin, avec qui j'ai collaboré pendant 2 ans sur le projet Smicar. Et non, la plupart du temps, sur les fresques, il faut être deux pour porter ne serait-ce que l'aspect logistique des chantiers, où ça reste des chantiers de peinture avec des échafaudages, des choses comme ça. Donc ça ne se fait pas comme quand on fait un tableau dans son atelier. Voilà.
Et comment s'est créé Smicar ?
C'était nous à l'époque, on était encore jeunes, donc c'était un défi jeune. On a fait cette demande de subvention, on a été accompagné par la DDJS, si je me souviens bien des initiales, sur le portage de projet, sur le choix, est-ce qu'on crée une SARL peinture ou une association. Et on a été accompagné dans le montage de ce projet-là, qui était un projet de professionnalisation. Voilà.
Et ça c'est, on a l'impression que c'est, comment dire, l'éruption dans votre travail de la mention collective, d'une dimension collective.
Oui.
C'est important.
C'est sûrement primordial même. Moi, je me nourris beaucoup de ce que font les autres. Et la plupart du temps, j'ai eu beaucoup d'envie par rapport au travail d'autres, où j'avais envie de participer à leur production avec eux, de les mettre en avant. Il y a beaucoup d'artistes qui sont un peu timorés. Des fois, j'ai cette chance d'avoir un peu de bagou et de savoir me vendre, entre guillemets, même si le mot est un peu vilain, pour les artistes en tous les cas. Et des fois, de dire, tiens, viens, copain, on fait un truc ensemble. Je pense à des gens comme Seignot, le sculpteur de la Tour du Pin, mon ami Gio, des gens comme Cyril Fredinucci. Enfin, on a été tout un vivier de copains à refaire un peu le monde sur nos canapés. Mais moi, j'aime bien aller plus loin que le canapé, après, à concrétiser les idées dans l'action.
Voilà. Parce que c'est aussi un partage que vous faites avec les enfants, parce que vous avez aussi fait des fresques murales avec des enfants.
Oui, énormément.
Vous êtes aussi intervenant dans le milieu scolaire.
Scolaire, éducatif, MJC, enfin tout. Je vais parler. Smicar, on vendait de la prestation, on vendait de la performance, on vendait de l'atelier pédagogique. Alors, le terme vendre est un peu vilain, mais c'est un projet professionnel, donc il fallait bien qu'il y ait. Et donc, on avait des prestations comme ça, et c'est vrai que notre fer de lance a même surtout été la pédagogie.
Mais vous dites que, je vais vous pousser un peu dans vos retranchements, vous dites que vous vendez, mais ce n'est pas l'objectif de l'association. J'imagine que vous avez parlé de partage. Ensuite, c'est quoi ? C'est dispenser une conception de...
Comment bien vous répondre ? Je pense qu'au départ, on avait quand même cette pression-là de voir ce salarié, hein, parce qu'on n'a pas fait semblant, on s'est mis à, on a créé des postes, donc il fallait payer l'URSSAF. Donc on avait un peu ce souci-là quand même de faire donner à manger à la machine. Et moi, je me sentais plus dans cette notion de vente, parce que chaque fois que je dis le mot, j'en ai pas honte, mais je sais qu'on est très vite attaqué sur ce genre de discours. Quand on est artiste, il faudrait vivre que d'amour et d'eau fraîche. Et moi, c'était un peu là où j'y retrouvais mes petits en me disant, Smicar, c'est professionnel. Smicar, j'ai pas de style particulier. Je me mets au service de concepts, de festivals, d'autres choses. Et moi, j'avais ma production personnelle à côté pour là faire ça en dehors de toute notion de mercantile. Voilà, où je faisais vraiment ça pour moi, où je le faisais un peu plus sans concession, voilà, on aime, on n'aime pas, mais c'est pas, je l'assumais pleinement, mais j'assumais pleinement sur l'aspect du collectif, d'avoir une dynamique plus professionnelle, donc se mettre au service d'eux.
Mmh. Et la création de l'Artelier, qui est une école d'art, est-ce qu'elle procède de la même envie ?
Au fur et à mesure de mon parcours, j'ai commencé à... Il y a eu un moment, surtout, où Smicard s'est mis en sommeil avec Gio, mon ami avec qui j'ai fondé l'asso. Il y a un moment, on ne s'entendait plus forcément sur l'après, la façon de se diffuser, sur l'esthétique de ce qu'on produisait. Donc, on a décidé d'arrêter de travailler ensemble pendant au moins un temps. Et là, j'ai commencé à... J'ai été recruté par la prison pour mineurs de Meyzieu pour la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis tombé vraiment par là-bas par hasard. Et puis, le fait est que ça, j'ai réussi à tenir avec les jeunes, qui n'étaient pas un public forcément facile. Ils avaient fait le pari de me faire dégager en 3 jours. J'en ai tenu 4, donc... Donc après, voilà, ça a pérennisé mon poste sur cette prison, hein, parce que c'est vraiment ça. Et puis je travaillais aussi pour des MJC, des IME, voilà. Mais je faisais beaucoup de choses en éducation spécialisée. Ce que j'aime beaucoup, parce que j'ai un côté quand même un peu militant, mine de rien... où je me retrouve là-dedans. J'aime bien les gens qui sont un peu en marge et j'aime bien tendre la main. Je crois qu'on a tous le droit à une deuxième chance dans la vie. J'aime, voilà, travailler avec les jeunes en difficulté, c'est quelque chose qui me convient. Mais après, j'arrivais pas forcément à faire passer tout ce que j'avais envie de faire en termes de pédagogie artistique. Je ne pouvais pas transmettre tout ce que j'ai à transmettre par là, enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc l'idée de l'école, au bout d'un moment, enfin de l'école, de l'atelier, parce que l'école c'est peut-être un bien grand mot, c'était pour moi de pouvoir travailler en direct avec des gens qui avaient vraiment envie de travailler l'art plastique avec moi et avec qui je pouvais transmettre les choses comme j'avais envie de le faire. Et puis là, ça fait 4 ans que ça dure et ça se passe plutôt bien.
Et c'est une école de quel âge à quel âge? Il y a des élèves en quel âge?
7 à 77 ans, comme on voilà, dit. Voilà. Même un peu plus. Voilà, j'ai des tout petits minots. Je fonctionne très bien avec les pré-ados. Dès qu'on commence à toucher un peu le manga, la BD américaine, je m'amuse comme un fou là-dessus. Donc ça passe bien. Et puis après, public adulte. Et puis, c'est vrai que vu que je suis touche à tout, spécialisé en rien, je peux aussi bien, c'est marrant, des fois, je donne un cours pour, on est maximum une dizaine de personnes, mais je vais aussi bien avoir les mains dans la terre que devoir me les laver pour faire de l'illustration, puis derrière, me laver un coup pour faire un peu de Photoshop et travailler sur les ordinateurs. Et j'ai jamais le temps de redescendre, je m'embête pas. C'est ce que j'aime vraiment avec l'artelier, c'est que ça me pèse jamais. Des fois, le travail, mais là, je m'amuse tout le temps. Et ça, c'est dans ma discipline. Si à un moment, on y va à reculons en disant « il faut encore que je fasse une peinture », ça m'est arrivé à des moments sur des fresques où je ne savais plus pourquoi je peignais des baobabs à la queue leu-leu parce que le client voulait que je fasse de la déco de Sahara. Et voilà. Et j'en avais marre. Là, il y a eu un moment, je me suis perdu là-dedans à être un peu trop au service d'eux. Et sur l'école, c'est... Voilà, on partage vraiment et on s'amuse. Et c'est, pour moi, l'art, si on ne s'amuse pas, ça ne marche pas, quoi.
Et comment ça se passe, le contact avec les gens qui viennent assister à vos cours? Vous êtes le maître qui dispense son savoir, sa culture, son savoir-faire, ou comment ça se passe?
Je ne tolère aucun bruit, déjà. Ah, ça, c'est très important. C'est non, c'est n'importe quoi. Il faut que les gens s'habituent à mon sens de l'humour, déjà. C'est le premier du moment où... Et puis, non, vraiment, c'est ce qui surprend au départ, parce que moi, je ne suis pas prof, je suis artiste. J'ai appris les choses par passion, j'ai un côté un peu rock'n'roll sur les bords, donc c'est pas qu'on est anarchiste, c'est pas le mot, mais il y a un moment, j'aime pas les choses trop normées, et les gens viennent avec leurs envies. S'il y a des gens qui ont envie de faire des choses tout à fait académiques, moi j'ai beaucoup de respect pour le travail académique, mais en même temps j'adore tout ce qui est graphe, j'adore tout ce qui est caricature, le manga, je trouve ça génial parce que ça, en plus, ça fait accrocher les gamins au dessin, ils se mettent tous à dessiner du manga, et là-dessus on met la technique, mais j'impose rien. Les gens viennent avec leurs envies et moi je les aide à mettre l'esthétique là-dessus, à ce que ce soit bon, ce que techniquement ce soit bon.
Tu laisses ce qu'il y a dans ta tête sortir de ta bouche, mais sans bien en considérer toutes les conséquences.
allons à Tony Guern.
Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre Macon du groupe Core Dump, extrait de l'album De l'ombre à nos poussières. Raph, est-ce qu'on peut vous demander pourquoi ce choix?
Bah, une fois de plus, l'amitié, la Core Dump, c'est des gens qu'on a rencontrés par le biais du collectif Non Mais Non, auquel je participais avec mes amis Cécile, René, anciennement du Bar de la Paix. On a monté cet assaut pour faire du rock'n'roll en Nord-Isère. Et Core Dump sont venus avec une gentillesse incroyable. C'est un groupe mâconnais qui vient de sortir cet album, donc je tenais à faire écouter leurs morceaux. Ils ont sorti un nouvel album qui est génial et... J'ai participé à la réalisation de leur clip avec Mademoiselle Doux, donc on reparlera sûrement en termes du carnaval, qui collabore avec nous sur Smicar, une jeune réalisatrice vraiment très prometteuse et qui nous soutient par son travail et qui a réalisé le clip de Core Dump. Et puis encore samedi dernier, on était en concert avec Core Dump à Mâcon avec les Lofofora et on a passé un super moment. Voilà, donc je tenais à faire écouter leur musique parce qu'ils viennent de sortir un super album et puis que c'est des gens vraiment adorables. Et j'aime les gens adorables.
Voilà. Très bien. Alors, on va parler de votre projet actuel qui s'appelle Carnival. D'abord, pourquoi ce nom? Est-ce que c'est Carnaval, Festival? Est-ce que c'est les deux, un peu de la fois? Pourquoi cette appellation?
Ouais. Alors le carnival, c'est un peu... Mais pourquoi ce nom? Parce que ça faisait simplement référence. Moi, je suis vraiment un fan de cinéma fantastique. Et il y a une série que j'avais trouvé vraiment géniale qui s'appelait Carnival, la caravane de l'étrange. Et quand il a fallu trouver un titre, c'était vraiment le dernier de mes soucis. Quand on a monté le festival, c'était le nom. Puis à un moment, il a fallu trouver un truc. Donc j'ai proposé ça, Carnival, le festival de l'étrange. Et puis cette année, on a un peu modifié la charte du festival où ça s'appelle Carnifest, Carnival, l'étrange attraction. Parce que le fait est qu'il y avait déjà un festival qui s'appelait le Festival de l'étrange en France et on voulait pas qu'on ait l'impression qu'on essaye de leur... Enfin, qu'il y a un problème entre les deux festivals. Donc l'an dernier, on a fait ça un peu sans réfléchir ou non, mais voilà, c'était une sorte d'hommage à une série que j'apprécie, qui n'a pas tellement marché, mais qui est vraiment formidable, La Caravane de l'étrange, à voir absolument.
Alors, avant que vous nous parliez plus en détail de cette manifestation qui s'étale sur plusieurs jours, 4 je crois, ou 5 même, comment vous le présenteriez ce festival? Vous avez dit Festival de l'étrange, est-ce que ça définit l'ensemble du festival, ou est-ce que c'est une partie, ou...
Bah, le terme étrange est assez large pour y faire un peu un fourre-tout où on est sur la science-fiction, sur l'épouvante, sur le fantastique. Et on travaille aussi bien sur du dessin, du graphisme, du concert avec les abattoirs, du cinéma forcément, des courts-métrages. On essaye de présenter le travail d'artiste un peu alternatif, c'est aussi cette idée-là, un peu étrange hein, dans les salons de peinture qu'on a dans la région, tout est un peu normé. Donc dès qu'il y a des gens qui font des choses un peu macabres, entre guillemets, ou un peu dérangeantes, voilà, tout de suite c'est un peu stigmatisé. Moi ça m'amuse beaucoup, donc ça m'a fait beaucoup rigoler de mettre les pieds dans le plat et de faire un festival qu'avec les gens qu'on fait « Ah, c'est bizarre ce qu'ils font quand même ».
L'idée voilà. Vient de là en fait, c'est... L'idée au départ, cette envie de faire ce festival, c'était un peu cette idée-là ou...
Bah, il y avait toujours une fois de plus des copains, des gens que j'ai rencontrés sur d'autres festivals qui font des effets spéciaux et j'ai eu envie de les faire venir sur l'école, l'atelier, faire des stages. On s'est formé à tout ce qui était création de prothèses en silicone, voilà, se transformer en zombies, se transformer en monstres. Et puis dans une conversation avec José Molina, le directeur des abattoirs, on s'est dit bah tiens, on pourrait faire peut-être une soirée, concert, exposition aux abattoirs. Et puis en discutant, on se dit, bah ouais, mais on pourrait aussi associer le Méga Royal quand même. Puis bon, là, comme vous l'avez signalé, c'est tous des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Donc je suis allé voir ces gens assez simplement, proposant l'idée. Puis les gens m'ont fait confiance. Et puis du coup, bah voilà, Majolire nous a fait confiance, le Méga Royal, les abattoirs. Et puis il y a des artistes de la France entière qui sont venus la première année. Donc. Première année, il fallait convaincre, mais maintenant, le réseau fait que cette année, on se balade un peu sur la programmation, que les gens savent qu'on reçoit les gens dans un bon état d'esprit, et on a vraiment une programmation dont je suis très fier cette année.
Alors, vous êtes même si vous permettez, carrément un peu gonflé. Je vois le programme de cinéma, vous avez le premier jour, bon, La nuit des morts vivants, et puis un film de Faust, un film de Murnau, et puis vous avez un film de comment, Eraserhead. Bon, c'est David Lynch, c'est pas des films faciles, ça. Et ouais. Vous faites ce choix quand même.
Ben, ceux qui sont vraiment gonflés là-dessus, c'est Monsieur et Madame Desroberts, c'est José Molina qui font leur programmation. Hein, parce que moi, je vais pas dire aux abattoirs comment travailler, encore moins au Méga Royal. On échange forcément sur ce festival, mais les choix de Faust et de La Nuit des Morts Vivants, c'est Monsieur et Madame Desroberts qui font venir un conférencier qui collabore avec eux, Monsieur Lacour. Le Eraserhead, c'est un ciné-concert, même c'est pas juste le film, c'est une création d'un groupe qui s'appelle Cercueil qui va passer aux abattoirs. Et ça, c'est des choix que font les programmateurs des équipements. Hein.
Donc c'est à Bourgoin, on l'a pas dit encore, du 12 au 17 mai 2015. Donc c'est vraiment une manifestation ancrée sur Bourgoin.
Ah oui, là c'est, on peut pas faire plus. Oui. Enfin, les gens viennent de l'extérieur, mais on est sur Bourgoin, et puis on a cette chance d'avoir réussi à fédérer derrière nous la plupart des équipements municipaux. On a le service jeunesse avec nous, on a le service culturel, on a les abattoirs, bon, qui est capi maintenant, on a le musée cette année, le moment où on a un projet mapping sur le musée qui est immanquable. Là, c'est vraiment la chose dont je suis vraiment épaté, le moment où Mme Riboro m'a dit qu'elle était intéressée pour faire quelque chose in-situ sur le Festival de l'étrange dans son musée, quand même, sur le textile ou quoi. J'étais quand même assez épaté, mais on se connaissait déjà, on a déjà collaboré, donc je pense qu'elle savait que... Et là, on fait quelque chose de génial. Hanter le musée de Bourgoin, ça m'amuse d'avance.
Justement, on aimerait en savoir plus. Que va-t-il se passer au musée, donc ?
Alors là, on a déjà Aude Manchon, la danseuse chorégraphe de... la compagnie Amaceo, qui aussi sur l'école Le Totem de Bourgoin, qui nous fait des créations de danse. Donc il va y avoir plusieurs spectacles que nous propose cette amie. Et ce jour-là, elles vont accueillir le public, un peu en mode fantôme. Je tiens à préciser que ce qu'on fait au musée est quand même tout public. Des fois, on va un peu plus enfoncer le clou. Mais là, c'est vraiment un spectacle quand même tout public, même si on est sur le thème du fantôme. Et on a surtout le collectif XLR Project de Lyon, qui sont des vidéastes spécialisés dans le mapping. Donc le mapping, c'est quand on arrive à détourer une image, qu'on fait une projection vidéo, mais sur un objet, et que la projection prend la forme de l'objet, ce qui fait qu'on ne voit plus l'effet spécial et qu'on a l'impression de voir l'objet s'animer. Et donc ils vont projeter des images comme ça sur les métiers à tisser, sur les tableaux, où on va avoir l'impression que les choses s'animent. Et c'est vraiment des gens, là c'est pareil, hein. Nico Tico est un ami avec qui j'ai collaboré plusieurs fois sur Lyon, sur d'autres festivals, qui fait de vrais efforts parce que l'idée de l'amusait et que ça l'amusait de bosser avec moi sur ce projet-là. Mais le gars, là en ce moment il est en Afrique, il revient à Bourgoin, il repart après en Louisiane faire d'autres projets mapping, voilà. Et au milieu de ça, il est au musée de Bourgoin sur le carnaval. Et lui, c'est vraiment une des pointures nationales en termes de mapping. Et je pense que maintenant, c'est même repéré de façon internationale, vu la façon dont il se balade. Quoi.
Alors ça sera le samedi 16 mai.
En plus de le samedi 16 mai, on a ça qui est en conclusion, mais on a aussi toute la journée Zombie Walk. Ça va être une très, très grosse journée pour le festival. Des studios photos qui sont montés au Méga Royal par Pure Prod aussi. Enfin, on a plein d'amis qui viennent nous soutenir par leur travail sur le festival, mais sur cette journée. Des maquilleurs, Mario de Barrez, Gal Griot, qui viennent maquiller d'autres, des écoles à qui on a proposé des partenariats, qui viennent nous soutenir. Le 16 mai, ça va être vraiment énorme. Voilà.
Et vous avez aussi des masterclass.
Oui. Ben ça, c'est une de mes grandes fiertés. Là, on arrive à faire venir quand même des artistes qui collaborent avec des gens comme Tim Burton, par exemple, sur des projets comme Dragon Ball ou des petites choses comme ça, et qui nous font l'amitié de venir. Et les masterclass, je me disais, pour moi qui vois la qualité de leur travail et qui me demande quand même comment ils arrivent à sortir avec les logiciels que je connais, ce qu'ils font, je suis le premier intéressé à les voir travailler. Et donc on leur a proposé de faire des ateliers pour ouvert au public berjalien. On a essayé de faire vraiment ça avec un tarif le plus accessible possible, quoi. Et moi, je vois notre ami sculpteur Cyril Roquelaine, là, qui en plus nous a fait la gentillesse de créer le buste de l'affiche cette année. Pour l'avoir vu travailler l'an dernier, c'est juste magnifique, quoi. Et c'est des gens qui travaillent à l'international et voilà, qui simplement sont OK pour faire un atelier à Bourgoin. Et ça vaut vraiment le détour. Enfin, moi, je suis très fier de cette partie-là du festival en tant qu'amoureux de la peinture, parce que les artistes qui viennent, moi, je suis fan de leur travail. Je suis abasourdi par la qualité technique de ce que font ces gens. Et puis humainement, ils sont vraiment adorables, donc ils sont prêts à simplement montrer les choses qu'ils savent faire au public berjalien, et je pense que c'est à manquer sous aucun prétexte.
Et comment ça se passe? On s'inscrit à l'avance? On vient sur place à ce moment-là? Comment ça
se
passe?
Il faut s'inscrire à l'avance. Il y a déjà une des masterclass qui est pratiquement pleine là. Et il suffit de passer sur le site internet, il y a une page exprès masterclass où on nous écrit à l'adresse carnil-fest@orange.fr, il me semble, mais vous avez tous les liens qu'il faut sur le site internet, et on relève, voilà, on prend les inscriptions, et après il suffit de nous faire un chèque pour qu'on réserve bien la place, et puis voilà.
On a l'impression, quand on parcourt le programme de ce festival, que vous avez souhaité la rencontre de, je dirais pas de la totalité, mais de multiples moyens d'expression. Là, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose qui était plutôt technologique, le mapping. Là, bon, il y a la bande dessinée dans les masterclass, il y a le tatouage, est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est une coïncidence de rencontre?
Non, je pense que c'était une volonté. Je trouve que là-dedans, on a tout le soutien que nous apporte, par exemple, Majolire aussi, en termes de programmation littéraire, et dans le fantastique, tous les médias sont touchés par le fantastique, mais ça pourrait être un festival du policier aussi. Mais là, je trouve que sur cette esthétique-là, moi, je suis fan d'effets spéciaux depuis que je suis gamin, ça inclut des plasticiens, ça inclut des scénaristes, ça inclut des dessinateurs pour tout ce qui est storyboard, des illustrateurs, et tous ces gens-là produisent des choses magiques, étranges, et je tenais à ce qu'il y en ait qu'il y ait de toutes les esthétiques qui peuvent toucher à l'étrange, mais qu'il y en ait aussi pour toutes les publics. C'est-à-dire que là-dedans, moi, je veux autant qu'il y ait un Evil Dead qu'un magicien d'Oz. Je veux aussi bien que le fan de tatouage, métal, tout ça, se fasse plaisir à se faire un gros film gore, qu'une famille puisse aller se voir un dessin animé, faire une rencontre avec un jeune réalisateur de films d'animation, qu'on ait du conte avec Marie Dragique aussi. Voilà, du tout public, pour tous les goûts, quoi.
Alors ça, c'est également intéressant, hein. Vous multipliez, on vient de le dire, les modes d'expression, et puis vous vous adressez pas seulement à un public jeune, mais à tous les publics.
Ah oui. Mais là-dedans, c'est impossible, je pense. Des fois, on a tendance à vouloir sectariser un peu tout ça, dire ah, c'est. Mais le cinéma fantastique, les premiers films qui ont été réalisés sont pratiquement les films de Méliès. C'est le premier à aller les chercher là-dedans, parce qu'il y a moyen de s'amuser par les premiers trompe-l'œil, les premiers. Et tout de suite, on allait faire de l'effet spécial. Le King Kong de 1933, 36, je voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, dès le début du cinéma, on est même plutôt allé sur un cinéma on est allé tester jusqu'où on pouvait tromper l'œil, quoi.
Donc, il y a ce fameux rendez-vous sur les effets spéciaux du cinéma qui aura lieu aussi ce samedi 16 mai à l'espace Grenette à 19h. Donc, ça sera animé donc par Mathieu
Rossac. Ouais. Qui est professeur à l'école d'effets spéciaux de Métamorphose et qui est le point de départ. C'est un super grand copain, c'est quelqu'un d'adorable qui est déjà venu l'an dernier, mais qui, on peut lui reconnaître, est le point de départ du festival. On s'est rencontrés sur un autre festival, et avec la qualité de ce qu'il faisait, ce gars-là, je m'attendais, à le moment où je suis allé voir ses bustes, moi j'étais abasourdi, des bustes en latex, de trucs à la Star Wars, des choses comme ça, et d'aller lui demander mais comment tu fais ça ou quoi, puis au lieu de rester derrière son carcan à me dire oulala, tu sais, c'est de la technique et tout ça, c'est facile, tu prends tant de produits, blablabla, et puis tu prends ton compas, tu reportes, enfin c'est mieux à m'expliquer le truc simplement, et on est devenus amis. Et c'est ce que je trouve génial avec des gens qui ont une telle capacité technique et une telle simplicité. On peut les approcher, on peut parler avec eux et ça dédramatise, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tous les cas, voilà, ça rend accessible leur art. Et c'est ce que je trouve génial. Et d'autant plus dans une petite ville, vous m'excuserez, comme Bourgoin-Jallieu, où d'un seul coup d'avoir des gens de cette qualité-là, une école d'effets spéciaux, il n'y en a pas 15 en France, il y en a 2. Maintenant, je crois que Luc Besson vient d'en monter une à Paris, mais il y avait celle-là qui est de Strasbourg. Et les gens descendent à Bourgoin pour animer des conférences et montrer leurs œuvres à Bourgoin. Quoi.
Et là, donc, ça sera une exposition à la Grenette.
Ça fait partie de l'exposition et c'est une vidéoconférence qui nous réalise. Là.
Tout ça, c'est bien joli. Mais la moralité de la chanson, c'est dans la tête que ça se passe. Il n'y a pas d'autre solution, je crois que c'est là. C'est là-dedans que ça se passe.
Yes.
Tout. La politique.
Pour ma flow, yes.
C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe.
C'est dans la tête que ça se passe.
Un élixir magique, qui pourrait remplacer tout vos antibiotiques. Un pack de plantes naturelles en aucune chimique. Rien à voir avec tous ces produits pharmaceutiques. Il suffit d'en boire pour que ça en tient mieux. Matin, midi ou soir, pour les jeunes ou les vieux. Il suffit d'y croire tout en fermant les yeux. Et venir me voir si vous voulez vous sentir mieux. Allez, regardez sa couleur, elle aspire à la vie. Elle aspire le bonheur, à tout et quelques envies. Tentez-moi cette odeur, c'est pas du tyrannie. C'est juste du bonheur dans votre pays de vie. Enfin la bonne prix, les leçons efficaces. Moi ce qu'elle m'a appris, c'est faire de la place. Et puis les fonds d'esprit de toutes ces menaces. Et tout ça pour dire ces maladies dégueulasses.
C'est dans la tête que ça se passe, on gagne la médecine.
C'est dans la tête que ça se passe.
C'est dans la tête que ça se passe, on gagne la médecine.
C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe,
on gagne la médecine.
C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. J'ai pris le coq, ce billard maladroit. Connu par son sarole de parce qu'il a le froid. Une goutte de l'antidote dans un café en retour. Et le gars de mon pote est calotte pour la grâce à toi. Il y a eu aussi ce gaillard avec les cheveux longs. Le terme à table barre vêtu d'une tunique de coton. Il est venu me voir car une bande de cons l'avait cloué à soir pour une histoire de religion. Alors suis-je un charlatan ou ne le suis-je pas? À vous de voir en achetant mon produit Jigma. Je ne suis pas Satan, ni Bouddha, ni Allah. Mais tout ce que je prétends, j'en suis sûr et j'y crois. C'est dans la tête que ça se passe.
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 C'est dans la tête que ça se
passe.
C'est dans la tête que ça se passe.
C'est dans la tête que ça se passe.
Heureusement pour vous, la terreur n'est qu'un mot. La guerre, votre show, votre mot dirigé par vos enfants salauds. 3000 ans de Taïwan à Milan, que j'observe mille et mille enfoirés. Tu es violé, les âges de l'air violé pendant que vous crevez.
Encore du jus là ?
Oh la batterie c'est connu les mecs.
Allez !
C'est dans la tête que ça se passe, on gagne la médecine.
C'est dans la tête que ça se passe.
C'est dans la tête que ça se passe, on gagne la médecine.
C'est dans la tête que ça se passe.
C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe.
C'est dans la tête que ça se passe.
Les abattoirs, vous êtes pas encore abattus, j'espère. Ça touche à sa fin.
Couleur FM 97.1, nous venons d'écouter Tasmaniac, c'est dans la tête que ça se passe. C'était le CD de l'inauguration des abattoirs. Alors, Raph, pourquoi ce choix?
Une fois de plus, Tasmaniac, c'était un groupe, c'est mes grands amis. Puis c'était aussi, ce morceau a été enregistré lors de l'inauguration des abattoirs à Bourgoin, comme vous l'avez indiqué. Les abattoirs ont sorti un disque avec plusieurs groupes. Il y a Novice, Wanapik sur cette compilation. C'est une façon de faire la promotion de groupes émergents. Et je trouvais ça sympa de repasser ce morceau qui faisait un petit retour en arrière sur le début des abattoirs, sur le grand moment de mes copains les Tasmaniacs, dont à l'époque je faisais les fonds de scène, les pochettes, et puis surtout que je suivais de live en live, voilà.
Alors, on a remarqué, vous en avez parlé d'ailleurs, la présence d'une librairie dans ce festival, la librairie Majolière, pour ne pas la nommer. C'est quoi l'idée?
C'était de pouvoir inclure tout ce qui était littérature au sein du festival. On cherchait aussi, la première année, on n'avait pas encore la chance d'avoir la halle grenette pour mettre tous les exposants. Donc, chercher un peu des lieux pour nous soutenir en mettant à disposition leur espace pour qu'on puisse faire les expositions. Nous soutenir également financièrement, hein, parce qu'il faut toujours en revenir à ça. Et là, je peux dire que je suis tombé sur des gens vraiment super. Monsieur et Mme Villain nous ont soutenus. Nous fournissent tous les maquillages pour la Zombie Walk, nous ont donné carte blanche sur leur lieu. On a pu faire une partie des expositions l'an dernier dans leurs locaux. Et puis ils nous amènent, eux, leur capacité, leur connaissance dans le réseau d'écrivains. Et ils nous font la programmation d'auteurs de science-fiction. Ils mettent à disposition, moi je trouve ça assez génial, leurs locaux au Club Manga de Bourgoin, en lien avec le service jeunesse, donc ça inclut des jeunes, là-dedans ils vendent même pas les livres, ils mettent des livres à disposition pour que les jeunes puissent lire ça les samedis matins. Moi je trouve ça génial, quoi.
Vous parlez des Tokyo U, mais...
Tout à fait, mm-hmm. Ouais, mm-hmm. Mais c'est pareil, moi j'aime bien voir des gamins qui se bougent un peu et puis qui vont se fédérer pour partager une esthétique ensemble, et je trouve ça bien qu'on les soutienne. Mais quand c'est plutôt un privé qui fait ça, c'est plutôt une fonction d'organisme public, même si le service jeunesse les soutient aussi. Mais de la part de Majolière, moi je trouve ça plutôt très respectable qu'on ouvre un local commercial pour que des jeunes viennent bouquiner gratuitement.
Alors Majolière, c'est le mercredi 13 mai, et le lendemain, il y a une conférence sur les super-héros français. Parce que effectivement, les super-héros sont nés en France et pas en Amérique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette conférence?
Celui qui en parlera le mieux, c'est notre ami Xavier Fournier, qui est le rédacteur en chef maintenant de Comic Box, la revue référence du super-héros américain à la base. Ils font toute leur couverture avec Spider-Man, Captain America, j'en passe des meilleurs. Mais Xavier est une bibliothèque, une bible du super-héros. Je veux même pas savoir combien il a de comics chez lui, ce gars-là. Et il vient de sortir un livre où il y a eu un bon écho au niveau national. Il y a eu des passages TV et tout ça pour son livre, qui s'appelle Super-héros, une histoire française, et où il a fait une sorte de référencement de tous les super-héros qui ont existé. À la même période où se faisait Captain America aux États-Unis, on avait des super-héros résistants français. Il y a tout ce côté-là d'arriver à s'échapper un peu par l'invention de gens qui solutionnaient tous les problèmes qu'il pouvait y avoir avec des super-pouvoirs et beaucoup de courage. Enfin, voilà.
Alors, on est en train de vérifier si vous connaissez votre carnaval par cœur. Il y a aussi une rencontre avec le réalisateur Alexandre Jousse.
Et j'ai le droit des jokers ou c'est juste...
Vous avez droit à des jokers, absolument. Bon.
Mais sur Jousse, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Alexandre? Parce que Alexandre est venu l'an dernier nous présenter ses films. Cette année, il nous aide sur la programmation des festivals.
Voilà.
C'est quelqu'un qui collabore avec plein de gens aussi, qui est d'une gentillesse incroyable. Et l'an dernier, on a vraiment sympathisé avec lui. Donc, on voulait qu'il revienne. C'est aussi ça, on est un peu des grands gamins, mais on fait revenir tous nos copains sur le festival. Et il nous a aidé à choisir les films, voire il a fait la sélection des films. Et puis nous, on lui a donné carte blanche sur la programmation des courts-métrages. Voilà.
Ah, voilà. C'est lui qui organise cette programmation.
Voilà, en lien avec nous. Mais oui, c'est lui qui nous a fait ses propositions et on a tout validé en bloc, quoi.
Alors il y a aussi quelque chose qui me...
Il me reste encore deux jokers, oui, trois jokers, bon. Oui, pas mal. Bon. Hein.
Vous n'avez pas de soucis.
Le samedi 16, il y a la création d'un décor, et ça me paraît une idée assez fantastique aussi.
Le samedi 16, hein, alors par Jean-Olivier Barrès, c'est où que c'est marqué?
Non, tout en bas, par Vincent Joubert.
Ah, vous me trompez, parce que c'est création d'un décor, oui, mais pour c'est une des masterclass, avec Vincent qui a il travaille beaucoup avec le cinéma d'animation et les jeux vidéo. Donc autant on a Alexandre Thuy qui va nous faire travailler sur les masterclass, donc je précise, sur la création de créatures, le design de créatures, que Vincent Joubert, lui, va travailler sur les arrière-plans, la mise en place d'un décor, les points de fuite, la ligne d'horizon, tout ça. Et je trouve ça vraiment génial. Enfin, pour les gamins, moi, j'en reviens toujours un peu à mon école. Mais de travailler sur les masterclass, par exemple, on peut toucher à la 3D. Et la 3D, moi d'expérience, je sais que c'est ultra complémentaire au dessin, de faire de la sculpture. Après, sur la 2D, on se balade. D'avoir quelqu'un ensuite qui nous fait travailler sur le design d'un personnage en 2D, comme Alexandre Thuy, qui est une brute technique, qui en ce moment, quand il me répond « Attends, je suis à Los Angeles, j'ai pas trop le temps. » Voilà, ce genre de personne qui collabore un peu avec Tim Burton, par exemple. Et puis après, Vincent Joubert, qui lui collabore sur des jeux vidéo et qui va travailler sur tout l'arrière-plan. Donc si on fait les différentes masterclass, il y a encore celle avec Fabrice Gagos qui lui est un dessinateur de BD et qui travaillera plus sur tout ce qui est scénario, création d'une histoire. Si on fait les quatre masterclass, on sort quand même avec un beau tour d'horizon technique pour créer son propre univers, quoi.
Alors il y a à Villefontaine, il y a un lycée quand même du design. Est-ce qu'il y a une collaboration?
Tout à fait, je l'ai rencontré. Et puis on a on est allé rencontrer l'école la semaine dernière. Et on a pas mal de jeunes qui vont s'impliquer avec nous là-bas.
Parce que ça demande beaucoup de bénévoles, tout ça, hein, enfin, de l'organisation.
Ouais. Mais après, je tiens aussi à préciser, on a beaucoup d'amis intermittents du spectacle, techniciens, qui nous ont soutenus l'an dernier. Et cette année, je mets un point d'honneur à ce que ces gens-là soient rémunérés. Parce que là, quand on charge les camions, qu'on les décharge, qu'on monte le son, qu'on travaille 15, 20 heures par jour, et qu'après, quand tout le monde s'amuse, il faut recharger le camion, aller le ranger, tous ces gens-là méritent salaire. Donc on a beaucoup de bénévolat, effectivement. Mais on fait aussi très attention à payer les professionnels cette année. C'est aussi ce qui nous fait faire ces masterclass. C'est intéressant pour le public, mais ça nous permettait aussi de défrayer les artistes et qu'ils n'aient pas les frais de route à avancer pour nous quand même.
Et du coup, ça complique encore l'organisation du festival parce qu'il faut trouver des financements. Donc c'est une drôle d'aventure.
Ouais, mais on a la chance d'être quand même relativement bien soutenu cette année par la mairie de Bourgoin et puis d'avoir des partenaires. Je pense au Méga Royal, je pense à Majolire, je pense à après Eric Tatou, enfin tous les partenaires, Rock Story, des clics ludiques, Nippon Game, faudrait pas que j'en oublie ceux-là qui nous soutiennent sur l'achat d'encarts publicitaires et qui nous permettent de financer le festival. On a beaucoup de partenariats privés avec cette année. Alors, des petits partenariats, entre guillemets, 500 euros par-ci, 500 euros par-là. Mais quand on a une dizaine de personnes qui nous soutiennent comme ça, bah, on peut faire quelque chose de professionnel, de sérieux.
Dominique me montre le tatouage.
Oui, le tatouage. On est curieux au Tidane Mag. Pourquoi l'intervention d'un tatoueur? Il y a une raison, ça complète, ça enrichit, c'est une autre façon de voir.
C'est quelque chose qui est vraiment lié, le tatouage, à l'esthétique du rock, parce que le carnival, c'est du cinéma, mais c'est aussi du rock. Il faut préciser cette idée-là, où quand même l'idée est partie en partenariat avec la salle de concert de Bourgoin, les Abattoirs. Et là-dedans, dans les effets spéciaux, les gars ont tous des tatouages, les créateurs de tatouages sont tous des fans de fantastique, les gens ont des tatouages de vampires, de zombies, des choses assez incroyables comme ça. Mais nous, ce qu'on montre cette année en termes de tatouage, c'est pas, on fait pas une convention de tatouage parce qu'on n'a pas vocation. Mais par contre, on fait venir de jeunes graphistes, enfin des graphistes, qui font leur création de dessins et qui après la mettent sur une peau. Voilà, ils font d'abord le dessin et ensuite il y a la réalisation du tatouage. Et c'est comme ça qu'on va présenter cette partie-là des expositions. L'avant, la partie papier et la photo du tatouage une fois réalisé. Et pour moi, ça s'inclut parfaitement dans ce côté un peu étrange. Ce qui est créé par ces dessinateurs-là est toujours un peu underground, un peu en dehors des sentiers battus. Et c'est, moi, je trouve qu'ils, les tatoueurs ont parfaitement leur place au milieu de notre festival de l'étrange.
Et j'ai vu qu'on pouvait même gagner un tatouage.
Ça, c'est Eric Tatou qui a proposé ça. Donc, faut lui envoyer le motif, faut que ce soit en lien avec le festival et bingo.
Jamais remplacé, tout le monde a sa place et les moutons sont bien gardés. On pourrait continuer pendant des années, je pense à se regarder ainsi en chien de faïence. Mais quel que soit ton quartier ou les traumas de ton enfance, la lucidité ne fait pas de préférence. Ton identité se laisse aller à des références d'une culture de merde qui te fait perdre le sens des valeurs du cœur, d'où te viennent la puissance et l'humilité qui te mène à la connaissance.
Je suis pas un géant, et même si elle n'est rien au milieu de l'océan, une seule goutte d'eau peut faire déborder le vase. C'est ma façon d'aborder le malaise à la base.
Hey, hey, explique-moi mais comment comptes-tu obtenir le respect? Je ne te parle pas de tenir en respect. Je sais, un jour ou l'autre tout se paie. En nature, oh bien sûr, par en petite coupure. Tu n'y échapperas pas même si tu joues les durs avec une guitare qui sature. Samedi soir en voiture, traîner en bande, ah c'est sûr, ça rassure. Comme les connards à Kébi, producteurs de pavure. Penchons-nous plutôt sur ce qu'il nous reste à faire, l'essentiel et le nécessaire. Sinon à quoi sert la galère? Vous passez des journées entières à fumer des doses, mais la fenêtre fermée. Refaire le monde sur un canapé, c'est à la portée du premier pont farfalé devant le JT. Tu veux que les gens réagissent, alors commence par réagir. Allez, donnez l'exemple plutôt que de subir.
We'll be right back.
Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre le groupe Lophophora, série B, extrait de son album Dur comme fer. Ah, ce choix.
L'an dernier, Renaud, le chanteur, était parmi nous sur le festival avec un projet DJ, et puis les Lophos, c'est vraiment le groupe que je préfère, des gens avec qui je collabore aussi, des amis maintenant. Donc voilà, ça me faisait plaisir de faire tourner ce morceau, voilà, dans votre émission.
Alors, pendant qu'on écoutait la musique, vous nous faisiez remarquer la programmation de Mad Max. Qu'est-ce que c'est important ?
Là, je trouve ça génial parce qu'on est en plein dans la sortie nationale du nouveau Mad Max, le quatrième, qui est de nouveau réalisé par George Miller. Et le Méga Royal a eu l'opportunité de pouvoir ressortir pour une journée. Là, c'est le mercredi 13 mai que ça se passe. Les deux premiers Mad Max, donc revoir ces films-là comme on a l'accès à La Nuit des Morts-Vivants et à Faust, d'avoir des grands classiques sur les écrans du Méga Royal, je trouve ça génial. Donc la ressortie des deux premiers Mad Max, immanquable quoi.
Et puis nous allons parler des concerts qui vont avoir lieu aux abattoirs.
Oui.
Alors qui pouvons-nous écouter? Je crois qu'il y a une soirée punk rock.
Ça attaque avec The Understone, qui est un groupe de punk rock irlandais. Voilà, c'est vraiment une programmation à laquelle tenait monsieur Molina. Il arrive à avoir des groupes internationaux à Bourgoin, c'est pareil. Des fois, on parle avec des gens de Paris qui disent « c'est incroyable, vous avez une salle, on a une date à Paris, il y a l'autre à Bourgoin-Jallieu ». C'est quelque chose qui est repéré au niveau national. Et donc moi le groupe là, je le connais pas bien, mais vu la notoriété, je sais que c'est quelque chose d'incontournable quoi. Donc une première soirée punk rock avec les anciens Common Men from Mars qui ont un nouveau groupe qui s'appelle le No Scientist qui sera là aussi le premier soir. Donc ça risque d'être une soirée très sympa en tous les cas. Et puis après nous on a ce qu'on appelle les Carnibales, donc le vendredi 15 mai. Où là, on va commencer par le ciné-concert des Razorhead. On met en place, nous, je sais pas si les gens, on a le teaser, donc le vidéoclip, pour dire parler un peu plus français du carnaval qu'on a réalisé. On a eu cette partie-là aussi, dont j'ai pas parlé, avec Mademoiselle Doux. On a réalisé un clip avec Aude Manchon qui nous servait de mascotte. Voilà, on avait créé le costume. Et on va reproduire l'esthétique du vidéoclip lors du concert. Donc avec une performance avec le musicien de Tangram qui va contrôler la créature depuis ses machines. Donc ça va vraiment être sympa. Ça dure un quart d'heure sur l'interplateau. Puis après on finit avec les copains de Maccabée et le Zombie Circus Orchestra, pardon. C'est vraiment du rockabilly festif, c'est très engagé, très très impertinent. Voilà, ils sont maquillés en prêtres proxénètes, voilà. Mais tout ça avec de la bonne humeur et puis un certain petit côté revendicatif une très belle scénographie. Je dis ça parce que je l'ai réalisé, donc voilà. Mais ils ont vraiment tout un univers autour d'eux qui est vraiment sympa et ça va vraiment être une vraie soirée de fiesta comme il y a besoin sur un festival comme ça. C'est important qu'on ait des moments vraiment récréatifs. Donc cette soirée-là, la première partie avec le Eraserhead va être un peu sombre. Mais c'est vraiment revisiter un classique comme ça en termes de ciné-concert, c'est vraiment quelque chose en termes de programmation qui est vraiment excellent. Et on finit sur une vraie touche festive avec les copains de Maccabée qui va vraiment être sympa. Et puis pour parler des concerts, on aura encore pas mal d'animations le lendemain sur la journée zombie. Donc la journée zombie cette année qui est scénarisée, on fait pas une déambulation. Mais on scénarise, il va falloir aller chercher des outils de survie dans la ville. Et puis et tout ça est rythmé par de petits concerts, des DJ. On va peut-être avoir une interview, les gens de Maccabée seront encore là pour faire une rencontre avec le public lors du concert. Eux, ils viennent de sortir un livre-disque, donc on avait déjà le première porte d'entrée avec eux. C'était leur illustratrice qui montrera ses travaux sur nos expos. Donc on finit le samedi encore par pas mal de choses musicales, plus humbles que ce qui se passe aux abattoirs, parce qu'on n'a forcément pas les mêmes moyens, mais la musique finira encore le samedi en ville. Et puis forcément, oui, le dimanche avec la journée jeune public auquel je tiens beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il en faut pour tous les âges, il en faut pour tous les goûts. Et on finit en présentant le travail d'un jeune réalisateur, M. Saunier, qui vient nous montrer ses réalisations en termes d'animation 3D qui sont fabuleuses. C'est un jeune homme super sympa, un peu timide, donc ça me faisait plaisir de qu'il aille à la rencontre de son public. Et puis notre amie Marie Dragic, pour ne pas la présenter, qui va nous faire un conte autour du fantastique et des ogres, il me semble.
Alors, je reviens sur la journée du samedi, la zombie walk. Il y a du maquillage dans cette histoire-là.
Ah, ça, il y a beaucoup de maquillage.
Oui. Oui. Alors, vous avez quelqu'un, vous avez...
Ah bah, l'idée, c'est de faire vivre tous les lieux partenaires, un peu leur renvoyer l'ascenseur en termes de leur soutien. Donc, on fait vivre tous les lieux partenaires. Il y a le restaurant Maupassant, j'ai pas encore parlé, où il va y avoir des stands de maquillage, la déco, Méga Royal. Il y a tout un décor qu'on installe post-apocalyptique avec un studio photo où les zombies vont pouvoir se faire photographier au fur et à mesure. Et ça me fait penser à un truc dont je suis très, très fier aussi cette année. C'est qu'au final, on va faire un artbook du festival cette année. Donc toutes les photos de ces réalisations vont être condensées dans un livre. Et ça, je trouve ça vraiment super aussi comme finalité. Et donc derrière nous, pour répondre à votre question, parce que je digresse un peu, on a une quinzaine, vingtaine de maquilleurs qui vont être disséminés sur 6 ou 7 sites en ville. Je veux pas dire de bêtises, mais j'utilise pas mon joker encore.
Ce sont des professionnels ?
La plupart, ouais. Et même ce qu'on appellerait amateur là-dedans taquine bien.
Voilà. Donc il faut venir maquiller, il faut venir déguiser.
Les deux choses sont faisables. Si on a une blanche neige, je suis désolé, on lui jettera du sang dessus, mais on peut venir en blanche neige, on va s'occuper de son cas. On a des gens qui font des projets de zombies végétariens, donc on verra comment on va réagir à ça. Mais bon, c'est vraiment une journée où on s'amuse. L'an dernier, on avait plein de gones qui s'étaient habillés en choses liées au manga et on n'est pas du tout sectaire. Je plaisantais un peu, mais c'est voilà quelque chose vraiment lié plutôt au zombie walk. Mais on a déjà évolué. Et cette année, c'est pas une déambulation, mais on a scénarisé une sorte de jeu de survie géant qu'on va filmer. Enfin, si tous les projets se passent comme prévu, ça va vraiment être sympa.
Et vous pouvez imaginer, sans donner dans l'euphorie excessive, combien de personnes ça va mobiliser, cette zombie walk? Vous avez une idée?
Oui, cette année, je pense on va taquiner 500 personnes dans la rue piétonne maquillées. L'an dernier, on a déjà fait 300. Et on a été vraiment super bien. Ce qui a plu, c'est le fait que ça se passe en centre-ville. Moi, j'étais extrêmement surpris de voir qu'on avait vraiment un public familial. Je pensais que les gens allaient un peu nous regarder comme des tordus avec notre truc. Au lieu de ça, les gens se sont vraiment amusés, ont vu que ça se passait dans un bon esprit. Et ça amuse tout le monde.
Eh bien, on a hâte d'y être. Hein.
Oui, tout à fait. Merci, Raphaël.
On peut donc, pour toutes les infos, rappeler le site.
Oui, www.carnifest.com.
Merci Raph.
Merci Raph.
Merci à vous surtout.